pas faire le point sur ces questions de sentiment de présence à distance, parce que c'est un titre court, comme tu l'as indiqué. Il y a quelques mois, tu m'as proposé de participer à cette journée en indiquant un titre. J'avais proposé cela, et puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à partir des travaux de recherche que j'ai menés, ceux de mes collègues, sur cette question de sentiment de présence à distance? Alors, je vais préciser tout d'abord, tu l'as dit, mais que je m'intéresse aux pratiques médiatisées par les technologies de l'information et de la communication. Alors, on ne va pas le dire à chaque fois, on dira les pratiques numériques, ça voudra dire ça, hein, les pratiques médiatisées par les technologies de l'information et de la communication dans le champ de l'enseignement, de la formation, de l'éducation de façon générale. J'aborde ces pratiques à partir d'un cadre de référence qui est la clinique d'orientation psychanalytique. Et vous allez probablement entendre dans les minutes qui viennent le lien entre ce cadre théorique et les propos que je voudrais vous tenir. Alors, j'espère que ça fonctionne bien. D'ailleurs, Pablo, tu n'hésites pas s'il y a un souci quelconque.
Et on t'entend
Premier,
bien, je pense que tout va bien et
et on voit l'écran, donc
on est sur la première diapo.
ouais, et je regarde, et ben voilà, je vois qu'on peut passer à la deuxième diapo, donc
C'est
ça
bon.
fonctionne.
Merci.
Premier élément que je voudrais avancer pour ce matin, c'est l'idée que, avant de nous intéresser pleinement au sentiment de présence à distance, je voudrais rappeler que l'on n'apprend que si on est à distance, et donc probablement que l'on n'enseigne que dans la distance. Je vais préciser, je vais dire autrement, que finalement la relation, le processus d'enseignement-apprentissage ne peut supporter le collage, la fusion, l'indifférenciation. Cette indifférenciation nous renvoie à des moments qu'on qualifie d'archaïques, ce qui veut dire au premier moment de la vie, aux tout premiers instants de notre vie, lorsque, tout jeune enfant, nous nous sommes trouvés, en raison de notre immaturité, hein, c'est pas une découverte de la psychanalyse que de repérer que l'enfant humain, naît immature, et qu'il a besoin de son entourage pour survivre, dans cette période que Winnicott a nommée une période de dépendance absolue. On a tous fait l'expérience de cette phase où à peine a-t-on exprimé un désir que celui-ci est satisfait par notre entourage. Winnicott précise qu'il est impossible, tant pour l'enfant que pour un observateur extérieur, de discerner si l'objet de satisfaction qui vient répondre à la demande provient de l'enfant lui-même, c'est-à-dire si c'est une création de l'enfant, ou si cet objet est fourni par le monde extérieur, si l'enfant ne fait que le trouver, en quelque sorte, parce qu'il aurait été mis au bon endroit, au bon moment, par de bons parents. Cette fusion entre l'enfant et son entourage permet au jeune enfant de développer un sentiment de toute puissance basé sur le fait d'être en présence de cet objet que Winnicott appelle l'objet trouvé, créé. Hein, pour reprendre son expression, un objet qui correspond pleinement et parfaitement au désir qu'il ressent. Or, dans cette période, il n'y a pas d'apprentissage possible. Il n'existe qu'un sentiment d'omnipotence. Et pour apprendre, il me semble qu'on peut tomber d'accord sur la nécessité qu'une distance s'instaure, que l'objet investi ne correspond pas pleinement ou totalement au désir, que la réponse ne soit pas tout à fait adéquate à la quête, qu'existe une faille, un manque, une suture, selon la façon dont on le nomme, en fonction des écoles théoriques auxquelles se rattachent les chercheurs. Bref, pour qu'un apprentissage puisse se mettre en place, il y a nécessité d'un reste qui autorise un mouvement psychique de secondarisation, d'élaboration, de conceptualisation, un mouvement psychique de pensée. La conséquence de cela est, comme je l'ai annoncé au début et que vous voyez encore écrit sur la diapositive, est qu'on ne peut apprendre ou enseigner que dans la distance, quels que soient les modes d'enseignement proposés, que l'on soit dans un enseignement en présence, que l'on soit dans un enseignement à distance, en formation ouverte et à distance, dans des formations hybrides de blended learning, dans des cours de type magistral, en groupe de travail collaboratif, etc., etc. Je ne vais pas décliner tous les modèles pédagogiques possibles, mais si réellement il y a un apprentissage, c'est qu'il y a de la distance. Deuxième point, en formation à distance, et j'entends dans formation à distance, y compris les situations que l'on a vécues de classe pendant les périodes de confinement, pas uniquement les formations dans lesquelles les étudiants ou les apprenants s'inscrivent à distance dans des campus virtuels ou au CNED, par exemple. En formation à distance, dans les situations d'enseignement-apprentissage médiatisées par les outils numériques, lorsque finalement l'apprenant et l'enseignant ne se trouvent pas dans la même salle de classe, ils sont aux prises avec des imaginaires, des technologies de l'information et de la communication, imaginaires sociaux qui ont un effet sur notre rapport aux technologies et par là même sur notre rapport au savoir. Je vais pointer trois d'entre eux. Premièrement, l'affirmation que les réseaux numériques permettent, grâce à l'Internet, l'accès à tous les savoirs du monde, à travers le temps et à travers l'espace. Même si cet imaginaire repose pour une grande part sur une confusion entre information, connaissance et savoir, il me semble que ce point est important pour nous, pour tous ceux qui s'intéressent aux situations d'enseignement-apprentissage. Le deuxième mythe est celui de l'affranchissement du temps et de l'espace, qui correspond à une réalité matérielle, sauf si on se trouve dans une zone délaissée par les opérateurs de réseaux numériques, mais c'est au moins pour l'affranchissement de l'espace que nous sommes en train de vivre. Et ce qui est, ma foi, fort pratique, puisque si j'avais dû aujourd'hui, avec ce temps enneigé, me rendre à Alençon, comme il était prévu, je pense que cela aurait été bien compliqué. Et donc, une abolition possible du temps et de l'espace. Enfin, le troisième imaginaire développé par le numérique en situation d'enseignement et d'apprentissage, concerne l'immédiateté. La vitesse de plus en plus grande de traitement des ordinateurs peut donner le sentiment que la réponse survient dès que l'on appuie sur la touche entrée, ou dès que l'on clique sur la souris, ou dès que l'on appuie au bon endroit sur son écran tactile. Quelque chose de l'ordre du tout tout de suite qui renvoie le sujet au principe de plaisir qu'avait décrit Freud. Et ces imaginaires renvoient donc les enseignants comme les apprenants à des vécus archaïques de toute puissance, d'objets trouvés créés, pour faire le lien avec le premier point que j'évoquais. Le savoir peut être alors perçu comme un objet à détenir, à acquérir directement un en-soi qui serait déjà là et prêt à consommer. Si on pouvait représenter graphiquement cet univers, on aurait probablement un ensemble de points, d'éléments disjoints, et dans cet univers, on passe successivement d'un point à un autre, de l'un à l'autre, puis encore à un autre, et en oubliant à chaque fois l'un, puis l'autre, etc., etc. De façon triviale, on pourrait dire qu'on est dans un espace pulvérisé façon puzzle, pour prendre des citations célèbres. Tandis que si on devait représenter graphiquement les situations d'enseignement-apprentissage, on serait amené à dessiner un graphique constitué de points reliés entre eux, de droites, de courbes, sur différents plans. Et c'est sans doute là une des difficultés à laquelle on se trouve confronté lorsqu'on utilise le numérique en éducation, à distance, dans le champ de la formation. On met en œuvre, lorsqu'on utilise à distance, enfin la formation à distance, l'enseignement à distance, on met en œuvre un dispositif qui repose en quelque sorte sur la négation de l'expérience du sujet pour lui proposer un ensemble d'instants différents, non reliés, tandis que l'activité d'enseignement, comme celle d'apprentissage, se construit dans le présent en s'appuyant sur le passé pour aller vers un futur. On est dans un processus. Eh bien, avec le numérique, on utilise une technologie qui nous renvoie à l'instantanéité pour travailler sur du processuel. Et c'est là tout le paradoxe. Je voudrais illustrer ce point avec le discours qu'un enseignant tenait, professeur d'histoire-géographie, en collège. C'est un enseignant qui a été rencontré par Kinjal Damani lors de son travail de thèse de doctorat qu'elle a réalisé sous ma direction sur les pratiques des enseignants du second degré qui utilisent Facebook avec leurs élèves. La première idée qui vient à l'esprit de cet enseignant, qu'elle a prénommé Freddy, hein, c'est un prénom d'emprunt bien sûr, la première idée qui vient à l'esprit de Freddy, c'est que Facebook permet d'établir un contact direct et surtout immédiat avec ses élèves. Il mentionne que Facebook donne la possibilité aux élèves de laisser des commentaires, d'être en conversation avec lui dans un cadre pédagogique, ce qui, d'après lui, est beaucoup plus difficile à l'école. Et toujours d'après lui, la réponse immédiate de la part d'un enseignant peut faciliter l'apprentissage, contrairement à ce que lui-même a vécu lorsqu'il était élève, où il devait attendre un certain temps, le cours suivant, parfois une semaine entière, pour obtenir des explications ou des corrections. Il dit, ce qui me dérangeait, moi, quand j'étais à leur place, je posais une question à la fin du cours, on me disait la réponse la semaine d'après. Et ça ne pouvait pas me satisfaire, vous voyez. Freddy insiste sur le fait que Facebook permet une continuité entre ses élèves et lui-même et lui offre la possibilité d'être en contact avec les élèves hors temps de la classe, le soir, le week-end, pendant les vacances, permettant ce qu'il nomme une continuité du temps. Et il dit encore, alors ce sera le partage, un contact direct, je dirais un contact sans barrière du prof, sans la barrière du prof, c'est-à-dire un rapport différent avec l'élève, plus simple et sans jugement. On entend bien dans le discours de Freddy comment ces imaginaires sont à l'œuvre dans cette idée que le temps, l'espace, l'accès au savoir, le tout tout de suite peuvent être présents dans la relation éducative. Je n'ai plus l'accès à, comme je suis en plein écran, je n'ai plus accès à mon chronomètre. Donc, Pablo, tu n'hésites pas à me faire signe si
j'approche. Il te reste une bonne dizaine de minutes, en théorie, 12 minutes, disons.
OK. Pour apprendre à distance, c'est le troisième grand point, pour apprendre à distance, il faut avoir vécu sereinement l'expérience d'être seul en présence de l'autre. La formation à distance, le téléenseignement, de la continuité pédagogique peuvent renvoyer l'élève comme l'enseignant à un sentiment de solitude, sentiment teinté d'inquiétante étrangeté, puisque la situation classique est connue davantage une expérience de groupe, de collectif, d'enseignement en classe. Inquiétante étrangeté parce que les repères qui ont été construits dans cette expérience d'enseignement sont à reconstruire. Cela ressemble à l'école, mais ça n'en a ni la couleur, ni la saveur, ni l'odeur, etc., etc. Ce sentiment, cette expérience de solitude, mobilise chez chacun une capacité construite dans des expériences antérieures, décrites là encore par Winnicott, la capacité d'être seul, et il ajoutait, c'est très important, la capacité d'être seul en présence de l'autre. Il a formulé dans un ensemble de travaux théoriques autour de la relation mère-bébé, qui c'est une phase qui apparaît dans une phase de dépendance relative du nourrisson. Il faut entendre capacité d'être seul en présence de quelqu'un qui, chez l'enfant, lui permettra d'être réellement lui-même, de découvrir sa vie personnelle, pour reprendre les termes de Winnicott. Il écrit, c'est seulement lorsqu'il est seul, en présence de quelqu'un, que le petit enfant peut découvrir sa vie personnelle. Alors, quelles conséquences on peut tirer de cela pour nos pratiques d'enseignement? Même si, en posture de chercheur ici, je ne souhaite pas formuler des recettes ou des bonnes pratiques, il faudrait probablement que l'apprenant ait un ressenti d'une forme de présence-absence du formateur, du tuteur, de l'enseignant. L'apprenant est en quelque sorte seul, à distance, mais il sait qu'il peut compter sur la bienveillance attentive de l'enseignant. Il est en confiance vis-à-vis de son entourage et peut en conséquence se risquer dans l'univers numérique à des apprentissages nouveaux. Cela signifie sans doute que l'enseignant est en capacité de percevoir les signes de mal-être, de difficulté, pour réagir, pour ajuster son intervention, sa présence, d'offrir provisoirement le support de son moi pour soutenir le moi défaillant temporairement de l'apprenant. Cette présence-absence de l'enseignant autorise les apprenants à se saisir des espaces numériques avec la liberté d'exercer pleinement leur fonction créatrice sans se sentir ni assujettis ni menacés par leur monde interne ou par le monde extérieur. Dit autrement, c'est la présence-absence avec un trait d'union entre les deux de l'éducateur sur les espaces numériques qui est propice à la création. Et c'est sans doute une des conditions pour que les espaces numériques deviennent, pour les apprenants, des espaces de symbolisation et non pas des espaces persécuteurs. Alors, le sentiment de présence à distance est peut-être différent si l'on est en présence ou à distance. Bien sûr, c'est le contexte qui change. N'est pas certain que le ressenti change. Les travaux des chercheurs qui s'intéressent, par exemple, au monde virtuel montrent que le sentiment de présence repose sur la capacité à pouvoir s'immerger dans un univers numérique. Nous avons déjà l'expérience d'une immersion en classe. Nous sommes pendant environ une vingtaine d'années plongés dans un bain d'école, si je puis dire. Cette expérience d'immersion dans le monde réel peut-elle se traduire dans une immersion en classe virtuelle? Cette capacité à pouvoir s'immerger et à ressentir un sentiment de présence repose également sur la capacité à se sentir enveloppé. Cela renvoie à ce que Claudine Blanchard-Laville a appelé la signature de l'enseignant, c'est-à-dire la façon dont il porte symboliquement sa classe, au-delà du contenu de son cours ou au-delà des modalités pédagogiques, de la démarche pédagogique qu'il mobilise. À distance, la signature de l'enseignant se constitue à partir de sa voix, de son visage essentiellement, puisque la plupart du temps, son corps est caché et hors champ de la caméra, de ses mimiques et de sa posture. L'immobilité du corps, hein, on est devant l'écran de l'ordinateur, est sans doute un élément à pointer dans cette capacité à se sentir enveloppé. Le sentiment de présence se construit également à partir de l'intensité émotionnelle du vécu de l'échange. Pardon. Notamment à travers l'échange de regards. Or, à distance, l'échange de regards ne peut pas se faire. Si je veux voir vos yeux, encore que la personne n'a branché sa caméra, mais si je veux voir vos yeux, je dois regarder mon écran. Si je veux vous donner l'impression ou le sentiment que je vous regarde dans les yeux, je dois regarder ma caméra, qui la plupart du temps est située au-dessus de l'écran. Et je ne vous vois plus. À de rares exceptions près, hein, avec des logiciels qui corrigent le décalage entre caméra et écran, qui sont utilisés pour des enfants avec des troubles autistiques notamment, il n'est pas possible à distance de croiser nos regards. Et cela probablement a une influence sur l'empathie que nous ressentons l'un envers l'autre. Enfin, le sentiment de présence fonctionne à condition que cette présence ne se fasse pas trop envahissante, à condition que les limites de l'intime soient préservées. Je vais m'appuyer sur deux recherches. Dans la première, c'est une recherche sur les pratiques des classes virtuelles d'enseignants à l'université qui a été réalisée par Hervé Daguet et Béatrice Savario dans notre laboratoire au CIRNEF. Et ces deux collègues ont recueilli le discours d'enseignants à l'université qui utilisent ces classes virtuelles et une partie des propos relève de cette question de l'envahissement finalement. Je vous relate les propos. J'étais obligé de partager mon écran et du coup, ils voyaient mon diaporama, mais aussi tout ce qu'il y avait en dehors du diaporama. Voilà, premier élément, on partage l'écran de son ordinateur ou encore je me mets dans mon bureau, chez moi. Derrière, il n'y a que des bouquins. Ça fait sérieux. Parce qu'il faut faire attention à tout. On est quand même chez soi, quoi. Donc ça pose un problème aussi, un problème d'intimité. Ou encore, globalement, on a l'intimité. C'est-à-dire que les étudiants, quelque part, ils voient chez toi. Partager la vidéo, c'est entrer dans ma chambre. Et tous ces éléments-là qui font conclure à Daguet et Savario que le fait de donner à voir chez soi constitue pour chacun des enseignants un élément qui interroge, et c'était une de leurs grandes surprises, parce que dans leurs hypothèses, ils pensaient que les classes virtuelles modifiaient la relation pédagogique et modifiaient la pédagogie, et ils ne s'attendaient pas à trouver autant d'éléments autour de ces questions d'envahissement et de confusion entre sphère personnelle et sphère professionnelle. La seconde recherche sur laquelle je m'appuie, j'espère que je ne vais pas trop vite, c'est une expérience de robot de téléprésence. Tout à l'heure, Pablo Busnic parlait de ce type de machine. Des étudiants empêchés de venir en cours longuement en raison d'un accident, en raison d'une maladie, en raison d'une grossesse difficile, etc., ont pu bénéficier d'un robot de téléprésence. Il s'agit d'un écran monté sur tige à roulette, pour faire rapide. Et cet écran peut être piloté de chez lui ou de son lieu de convalescence par l'étudiant distant avec un appareil connecté, un ordinateur, une tablette, un smartphone, et le robot est son représentant dans la salle de classe. Les discours que ces étudiants tiennent aux chercheurs après cette expérience, a posteriori, sont plutôt d'une tonalité positive, du type ça m'a permis de sauver mon année, ça m'a permis de sauver mon semestre, c'était une catastrophe et là, vraiment, ça m'a permis de suivre les cours, etc. Mais toutefois, au-delà de ces éléments de discours avec une tonalité positive, pointent quelques éléments qu'on pourrait qualifier de plus négatifs, peu nombreux, hein, on l'aura compris au regard de l'ensemble des discours, mais qui concernent bien sûr des questions liées à la technique, des problèmes de connexion, de niveau sonore, etc. Ces difficultés techniques évoquées par les étudiants, on les retrouve dans tous les dispositifs de formation à distance, de mise à distance. Mais on trouve également quelques éléments qui dénotent par leur caractère moins laudatif, on pourrait dire, dans cette confusion entre des espaces. Lorsque le distant se fait proche et se fait inquiétant. Une étudiante me dit, mais quoi, du coup, ça fait un grand écran. On me voyait bien. Tout le monde a visité ma maison, du coup. Alors moi, je lui demande, tout le monde a visité votre maison? Non, mais on voyait bien ma maison, du coup, derrière moi. Ça n'a pas d'importance, mais je pense qu'eux me voyaient très, très bien en gros plan et voyaient ma maison. Voilà. Le travail avec les machines numériques favorise ces peurs et ces fantasmes de confusion, de dépersonnalisation. Or, s'il se fait trop inquiétant, un travail subjectif de déliaison se met en place, en lieu et place d'un travail de subjectivation. Enfin, je vois que Pablo est revenu, donc je pense que j'arrive à la fin de mon
Si tu
temps.
peux conclure en une ou deux
Voilà,
minutes, le temps que tu as
dernier
fait.
élément pour ce matin sur les questions d'univers inquiétant. Selon la taille du groupe, seul l'enseignant a branché sa caméra, c'est le cas ce matin. Et il peut alors être vu sans voir. Il peut se développer un sentiment de mise à nu de soi du côté de l'enseignant. Et de voyeurisme peut-être animé par la pulsion scopique qu'avait décrite notamment Freud ou Lacan chez les apprenants. La dialectique regarder, être regardé, qui est présente dans toute situation d'enseignement-apprentissage, est ici particulièrement remise au travail, réinterprétée. Le risque pour l'enseignant qui ne voit plus les apprenants est de ne plus les considérer comme des sujets inscrits dans un processus de subjectivation. Jamais achevé, bien sûr, hein. Mais ce risque, c'est de mobiliser des processus, encore une fois, de déliaison psychique qui considèrent l'autre comme un objet. Alors, pour conclure, réellement, bah, cette fois, la distance a des effets, hein. Il faudrait être stupide pour le nier. Je ne tiens pas un discours qui est anti-technologie. J'utilise très volontiers les technologies. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est de repérer que la distance met en exergue des éléments qui sont présents dans toute situation d'enseignement-apprentissage, même en présence, qui sont parfois invisibles, non pas parce que, on ne veut pas les voir, mais qui sont invisibilisés, on pourrait dire. Malheureusement, je ne possède pas de maître étalon de la bonne distance pédagogique, à distance pour que l'enseignant devienne un e-enseignant suffisamment bon, qui puisse mobiliser un e-holding didactique à distance. Je sais que la distance peut présenter des avantages, comme parfois l'anonymat et la levée des auto-inhibitions pour intervenir en cours via les modules de discussion. C'est ce que je constate actuellement avec mes propres étudiants de licence. En cours magistral, en amphi, il n'y a pratiquement aucune question qui est posée. Or, dans ce même type de cours, mais en classe virtuelle, je vois de nombreuses questions posées par des étudiants, ou de permettre à des étudiants empêchés via ce type de robot de poursuivre leur scolarité. Mais j'attire aussi votre attention sur le risque de réification de l'autre, de processus de déliaison psychique possible, dans des pratiques ordinaires, hein, pas des pratiques qui relèvent du tribunal ou de la psychothérapie, mais dans des pratiques ordinaires d'enseignement et de formation qui sont probablement accentuées par l'effet de la mise à distance. Je vous remercie.
Et merci beaucoup Jean-Luc pour cette intervention fort stimulante. Il nous a permis en même temps de nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on était en train de vivre à l'instant. Et j'en inviterai presque les participants à mettre au travail leur puce scopique et à peut-être remettre leur caméra, pourquoi pas, pour poursuivre les échanges. En tout cas, vous êtes évidemment libre de le faire selon votre connexion, mais on peut peut-être fonctionner comme ça, si vous voulez, pour conclure, puisqu'on arrive presque dans le temps de discussion générale. Peut-être que ouais, tu peux ouais, enlever ton partage. Alors, on est très nombreux. Personne n'a encore remis sa caméra, mais je vous y invite. Allez, on y va. On est bien. Ça ne changera pas grand-chose. On se sentira moins observé après la position courageuse de Jean-Luc d'être le seul à proposer son regard. Le temps qu'il y a quelques questions donc, qui ont été proposées dans le fil de discussion. On va quand même jouer le même jeu que les autres conférences. Je me permets de les condenser juste pour les 10 minutes qui restent. Et puis on prendra le temps midi, midi et quart, midi 20 peut-être pour les poser en direct. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de continuer à proposer des questions ou des remarques ou des anecdotes dans le fil de discussion. Et puis si vous voulez prendre la parole à partir de midi, vous mettez un petit signe. Je sais pas, je veux bien intervenir, je veux bien prendre la parole, et puis je vous donnerai la parole dans le sens que vous avez proposé. On a eu déjà plusieurs discussions, mais au fil, tu as presque répondu, notamment avec l'IA enseignant suffisamment bon, puisqu'en effet, quand tu nous as interpellé sur le ressenti de la présence-absence, qu'après tu as détaillé. Ça a résonné dans le fil de discussion sur le lien avec justement le concept de mère suffisamment bonne. Donc, tu l'as peut-être pas défini en tant que tel, mais après, tu l'as dit sous la forme d'IA enseignant suffisamment bon. Et du coup, ça a aussi référé à l'idée que deviennent, dans le même système théorique de Winnicott, les objets transitionnels. Donc, je sais pas, est-ce que ce point-là t'interpelle? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur cette IA enseignant suffisamment bon en lien avec le système théorique d'où tu fais émerger cela?
Oui, pas tant en lien avec les objets transitionnels qu'en lien avec les espaces transitionnels. Winnicott insistait bien sur le fait que pendant longtemps, ce qu'on retient de sa théorie, c'est l'objet transitionnel, le doudou, pour faire vite. Et il disait que finalement, ce n'était pas ce qui était le plus intéressant de sa théorie, c'était bien les espaces transitionnels, les espaces qui s'instaurent, dans lesquels prend place cet objet transitionnel. Et. Ces espaces étaient l'espace du jeu, hein, play voilà, jeu et réalité en français, les espaces du jeu, l'espace de l'humour, l'espace de la vie spirituelle, l'espace de la créativité et l'espace du savoir. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Alors, l'espace du savoir, au sens, le savoir que l'on construit soi-même, on pourrait presque faire le lien avec le socio-constructivisme, même si c'est assez hasardeux, mais l'espace, le savoir que l'on construit soi-même, pas le savoir des bibliothèques universitaires que l'on peut consulter, vous voyez, toujours cette différence entre information, connaissance, savoir. Mais réellement, le savoir que l'on construit soi-même, qui vient réinterpeller des savoirs qu'on avait déjà et qui viennent les modifier, les transformer, etc. Alors, le savoir du sujet, tout à fait. Je ne voyais pas tout à l'heure la discussion. D'un autre côté, ce n'était pas plus mal parce que vu que le temps était compté, si je m'étais arrêté pour lire les questions et y répondre en cours, j'aurais eu du mal. Je ne sais plus pourquoi je suis parti là. J'ai perdu ta question, Pablo.
Non, je pense que tu as. Voilà, si tu.
Voilà, après, Le numérique, ça crée enfin, les espaces numériques où la distance qui se crée ne fabrique pas de façon automatique un espace transitionnel. Et ne constitue pas, les objets numériques ne constituent pas automatiquement des objets transitionnels. C'est bien la valeur psychique que l'enseignant comme l'apprenant vont mettre dans cet espace qui va faire que ça va devenir transitionnel ou non. Ça peut être des espaces persécuteurs. Et donc, à nous de trouver la bonne distance, le bon compromis entre pratique de déliaison et pratique qui permet l'accès à devenir sujet. Le son.
Oui, c'est bon.
Oui.
Ouais, donc, je te remercie. Je me permets parce qu'il y a eu d'autres discussions, enfin, d'autres éléments de discussion qui ont été amorcés en amont. Donc, notamment sur le. Tu as commencé par une réflexion un peu percutante. En fait, on apprend que si on est à distance, alors que tu as pris à rebours hein, avec beaucoup d'élégance le questionnement. Mais du coup, cette distance qui est nécessaire dans la genèse du sujet, en fait, comment. Comment tu l'envisagerais, comment tu envisagerais cette transformation dans une distance didactique ou pédagogique ou éducative? Comment tu verrais le passage de l'un à l'autre? C'est Égère qui a amorcé cette discussion-là. Tu vois, entre le passage du primaire, j'en sais rien, dans le développement, et puis ensuite dans la relation pédagogique, didactique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce passage-là? Ou est-ce que c'est juste une métaphore?
Non, non, c'est pas qu'une métaphore, c'est compliqué dans le temps là parce que ça mériterait toute une conférence en soi.
Merci.
C'est une question intéressante. Moi, ce que je repère, c'est que la distance pédagogique, je vais le dire comme ça, didactique, après ça dépend, la distance que l'on vit dans les situations d'enseignement-apprentissage, voilà, de façon plus classique, nous renvoie, c'est ce que j'ai essayé de dire, à ces premières distances que l'on a prises avec notre environnement, au premier moment de construction de la pensée. On pourrait renvoyer aussi aux théorisations de Bion sur ces questions-là, des émotions à la pensée, aux sources de l'expérience, c'est le titre de son ouvrage en français. Ces éléments-là nous renvoient à ces premières expériences, nous font réinterpréter ces premières expériences, peuvent même faire en sorte que ces premières expériences, même si elles s'étaient passées de façon pas tout à fait satisfaisante, on va dire, d'un point de vue de la relation éducative, on peut de nouveau les remettre au travail, on peut de nouveau les réinterroger. Évidemment, c'est sur un niveau inconscient. J'explique des éléments en disant que ça a l'air facile, ça se passe de cette façon-là et cette façon-là. C'est tous ces éléments psychiques se déroulent sur un niveau inconscient. Donc cette distance pédagogique, elle mobilise à la fois la distance, les premiers moments de distance chez l'apprenant comme chez l'enseignant. Et il faut que, pour qu'on soit à bonne distance pédagogique, que ces réinterprétations puissent être supportables par l'un et l'autre.
Merci. En effet, dans une conférence fort restreinte de quelques secondes, je trouve la réponse relativement claire. Je me permets de continuer un peu sur ce qui a déjà été posé pendant que d'autres éventuellement interviennent. N'hésitez pas, j'insiste, hein, à vous manifester. Ça peut être sympa aussi d'entendre d'autres voix que la mienne que vous entendez depuis le début et celle de Jean-Luc que vous avez bien entendue déjà. Une question très simple sur la. Enfin, comment dire. Description un peu plus fine de l'idée de négation de l'expérience du sujet. C'est une formule qui a interpellé dans le fil de discussion. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus que ce que tu entends par là? Voilà.
Oui, l'idée que c'est si le savoir est considéré comme un objet, un en soi à acquérir, c'était dans cette idée-là, on n'est pas dans un processus de construction d'un savoir, on est dans un savoir qui fonctionne par points divers. On passe d'un point à un autre. C'est ce que j'ai essayé en prenant l'image d'une représentation graphique. C'est très difficile de représenter graphiquement ces éléments-là. Et en passant d'un point à un autre, hein, d'un élément de savoir à un autre élément de savoir, etc., sans qu'ils soient reliés les uns aux autres, on n'est plus dans une perspective de processus. On est dans un... On n'est pas dans le processus ordinaire de ce qui est l'enseignement-apprentissage. Quand on est enseignant, on a un projet pour l'autre, même si on ne se l'avoue pas. Même si je ne parle pas du projet pédagogique qu'on écrit pour son inspecteur, hein, ou pour préparer correctement sa classe, mais on a un projet pour l'autre, c'est que l'autre puisse se passer de nous, en quelque sorte, qu'il puisse grandir, qu'il puisse devenir un adulte citoyen, libre de ses pensées, libre, etc., etc. Non asservi à quelconque, enfin, au monde extérieur et à son monde interne, qu'il puisse vivre avec cela. La négation de ça, c'est considérer l'autre comme un objet, ça revient à faire en sorte que, on lui permette de passer d'un point à un autre sans qu'il y ait jamais de processus. Voilà, c'est ça l'idée d'une forme de déliaison psychique, de déni du parcours, du déni de l'histoire du sujet. Il n'y a pas d'expérience possible, hein, il n'y a pas besoin d'expérience pour passer d'un point à un autre, alors que la pratique d'enseignement-apprentissage ordinaire se construit sur l'expérience du sujet. Je prends un auteur qui n'est pas du tout psychanalyste, hein, mais qui pourtant est très à la mode dans cette question d'apprentissage. Si vous prenez tous les socio-constructivistes, viser la zone de proche développement, c'est bien s'intéresser à l'histoire de l'apprentissage du sujet. Et si on n'est pas dans cette perspective-là, on est dans le déni de son histoire.
Merci Jean-Luc.
Qu'est-ce qu'une bonne distance pédagogique? Je vois, je n'ai pas la réponse. C'est à chacun de la trouver. C'est Marie-France qui m'avait posé cette question. C'est gentil, Marie-France. C'est à chacun de la trouver en fonction de ce qu'il est et des personnes qui lui sont confiées. Évidemment, et du contexte d'enseignement. Probablement que la bonne distance pédagogique dans un cours à distance, elle diffère de la bonne distance pédagogique dans un amphi, ou elle diffère de la bonne distance pédagogique dans une salle de classe avec un petit groupe. Mais là, je donne des très grandes généralités, je ne sais pas si j'aide beaucoup. C'est à chacun de la trouver en fonction de son rapport au contenu enseigné, de son rapport aux modalités d'enseignement. Certains sont beaucoup plus à l'aise avec l'enseignement à distance que d'autres, par exemple. Pour certains, c'est insupportable. Ou changer de plateforme, hein, passer de Blackboard à Zoom ou je ne sais quoi, c'est très gênant pour certains collègues. Et du coup, ben, la bonne distance pédagogique, elle est influencée négativement par cet environnement numérique. Bon. Et puis, en fonction des apprenants, évidemment, dans la relation qu'on construit avec eux, j'ai pas la bonne recette, sinon tu penses bien, Marie-France, que j'aurais déposé des brevets et je serais riche et on ne serait pas là. On aurait réglé une fois pour toutes la question de l'échec scolaire, des difficultés à l'école. Marie-France veut prendre la parole.
Oui, non, mais la question n'est pas facile, hein. Mais bon, comme c'est
Merci.
toi qui emploies la formule, donc du coup, je me suis permise de la reprendre, mais effectivement, moi, ça me questionne, parce qu'en fait, effectivement, si on le prend du point de vue du sujet, on peut l'entendre, voilà, en intériorité, mais de manière extrinsèque, c'est un peu difficile. C'est un peu
Oui.
difficile. Voilà, donc effectivement, parce que souvent, le bon, ça renvoie à une norme, à un jugement, à des valeurs. Voilà, donc on se demande quelle est la référence, en fait. Mais si la référence, c'est le sujet, effectivement, et là, on peut comprendre que du coup, ce qui pourrait être une bonne distance pour celui qui enseigne n'est pas nécessairement une bonne distance pour celui qui apprend. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué.
Tout à fait. C'est la référence à la mère suffisamment bonne. Hein. C'est dans
Oui.
ce sens-là que je l'emploie.
Voilà. Non, mais j'avais compris. Mais bon, c'est tellement complexe, en fait, voilà, d'arriver à trouver une bonne distance pour l'ensemble des protagonistes. On peut même se demander si ça ne fait pas partie d'une forme d'utopie, de fantasme, finalement, qu'on va
D'impossible, oui.
trouver.
Sans
Voilà, alors.
compter une bonne distance pour l'institution également.
Et une
Qui
bonne distance pour l'institution, tout à
Oui.
fait. Mais si on essaye de se référer un petit peu aux travaux qui ont été faits, je pense notamment, parce que je vois qu'elle est là, Nathalie Carminati, sur le déjà-là proxémique. Donc, quand elle regarde un petit peu quel est le déjà-là proxémique des sujets dans l'interaction, et là, on n'est pas sur des aspects sur des approches, on est sur du réel, on n'est pas sur des distances virtuelles. Hein, parce que, voilà. Ben, elle met vraiment en avant qu'en fonction des sujets, des contextes, eh bien, il y a des déjà-là, ce qu'elle appelle le déjà-là proxémique, qui sont changeants, qui fluctuent, et que ça dépend aussi des contenus, des intentions des uns, des autres. Et c'est là que bon, c'est hyper complexe. En tout cas, merci pour le. Bon, voilà, je trouve que l'expression, en tout cas, elle interroge. C'est aussi le but.
Il nous reste une petite dizaine de minutes pour échanger. Hein, n'hésitez pas encore une fois à intervenir. Donc là, les questions sont ouvertes au regard de toutes les interventions, enfin, en tout cas celles au moins de Jean-Luc et Marie-France qui sont là avec nous. Et puis même peut-être aussi pour témoigner, pour partager aussi des pratiques, hein, puisqu'en effet, il n'y a pas une bonne distance, ni une bonne manière de créer la présence distance. Mais en tout cas, il y a eu des tentatives. On a chacun, chacune essayé dans nos classes, avec nos élèves ou nos étudiants de faire des choses, quoi. Notamment, par exemple, sur la dimension de l'enveloppement, quoi. Je serais intéressé de savoir, peut-être déjà Jean-Luc et Marie-France, dans vos pratiques de formateur-formatrice aussi, mais aussi chez les autres participants, si vous avez essayé des choses, si vous avez tenté. Alors, en effet, tu le disais, Jean-Luc, l'idée, ce n'est pas de prescrire en posture de chercheur. Mais peut-être qu'on peut prendre un temps, là, des 10 dernières minutes pour changer de posture ou du moins ouvrir nos postures et partager ce qu'on a pu essayer de faire justement. Est-ce que nos voix, est-ce que nous avons travaillé sur nos voix, sur nos visages? Est-ce que, par exemple, j'ai essayé de regarder la caméra, mais du coup, je ne vous vois plus. Je trouve ça absolument excellent. Ça m'a posé un problème que j'avais jamais vraiment envisagé. Donc, je remercie. On a une demande de Nora. C'est ça qui lève la main pour partager. Donc, Nora, je vous laisse la parole.
Micro.
Micro, s'il vous plaît.
Vous m'entendez pas?
Si, on vous entend bien, merci.
Vous m'entendez?
Oui.
Ah, ça y est. Voilà, j'ai enlevé mon casque. Voilà, merci pour cette intervention fort intéressante. Moi, pour ma part, j'enseigne en institut de soins infirmiers. Voilà, je suis doctorante en sciences de l'éducation et j'ai mis en place au cours de la crise pandémique des séances d'analyse de pratique immédiatement, effectivement, avec cette visée d'envelopper en fait les étudiants. Voilà, de répondre à cette distance ou à ce risque pris de comment dire oui de décrochage ou des liaisons, enfin voilà. Et en revanche, je voudrais juste témoigner sur la question de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce paradoxe hein, dans la distance, il y a aussi cette composante-là de répondre tout de suite, immédiatement, parce qu'il y a quand même ce facteur, ce contexte de crise, moi qui est ajouté en fait, je trouve, enfin qui est central quand même dans la mise en place. De ces outils numériques. Et on a rencontré, nous avons rencontré avec mes collègues cette difficulté de différer la demande. Et cette demande, dès lors qu'elle était satisfaite, elle relançait de nouveau une demande. Et ça a été voilà, c'était, je voulais témoigner de ça. Je pense que la mise à distance différée, la demande, les questions, ça m'a beaucoup questionnée. Et je me suis dit, voilà, est-ce que c'est aussi une mise en travail, en fait, de l'étudiant de différer une demande de, ça. Bon, alors après, je mettrai les... Je dirais que c'est aussi une épreuve de la castration, mais ça met en travail, vraiment. Et voilà, et à vouloir boucher le trou et renouveler sans cesse la demande. Et ça a été très, comment dirais-je, persécutif, mais peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devenait un petit peu envahissant et plus personne n'avait cette bonne distance, dirais-je, pour terminer mon intervention.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres propositions, peut-être dans d'autres contextes institutionnels aussi ? En effet, en école d'infirmière, on en a eu dans le supérieur. Moi, j'aimerais bien savoir dans le primaire et dans le secondaire si vous avez vécu des choses aussi de ce genre-là. Comment vous avez enveloppé vos petits, vos grands, ou développé. Envelopper, développer, ce serait notre manière de penser là, peut-être la distance aussi. Nathalie, je te laisse mettre le micro.
Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Jean-Luc pour ce que vous nous avez présenté, c'était vraiment super. Moi, j'aimerais revenir sur en fait, les différentes communications que j'ai pu entendre ce matin. Me permettent de revenir sur la question de la formation des futurs enseignants. Et en fait, au-delà de leur apprendre à transmettre des savoirs disciplinaires, je pense qu'il faut vraiment qu'on se questionne sur comment on transmet ces savoirs disciplinaires. Et la question de la distance, elle est bien présente. C'est-à-dire, même en présentiel, on s'aperçoit que cette notion de distance pose problème à certains d'entre eux et d'entre elles. Et donc là, à distance, on re-questionne à nouveau cette question de distance. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, d'envelopper nos étudiants. Parce que là, aujourd'hui, on a nos caméras qui sont ouvertes. Mais quand on fait cours, moi, je suis à l'université. Quand on fait un cours magistral à l'université avec 150 ou 200 étudiants, les bandes passantes nous empêchent d'avoir le visage de nos étudiants en face de nous. Et en fait, on a vraiment l'impression de parler seul à son ordinateur. Donc, je ne sais pas ce que ressentent les étudiants, mais en tant qu'enseignante dans le supérieur, c'est une énorme frustration. Voilà, c'était juste par rapport à ce ressenti qui me semble important et qu'on a tous connu et dont on n'a pas pour le moment en fait, de réelle réponse quoi, sur le comment faire. Et ça rejoint aussi ce que vous disiez par rapport aux outils technologiques.
Un collègue me disait cette semaine, j'ai fait cours à distance sur une plateforme, et puis j'ai fini plus tôt que prévu, d'habitude en amphi, etc., j'enrobe les choses et tout, puis là, je lisais mon papier et j'ai fini un quart d'heure plus tôt que prévu, et du coup, comme il n'y avait aucune question, je leur ai proposé de se déconnecter, et puis il s'est aperçu qu'il y avait une dizaine d'étudiants qui ne se déconnectaient pas, il s'est demandé si réellement ils étaient là, s'il avait parlé dans le vide ou non, voilà, comme il n'y a pas... Il n'y a pas les visages, ça l'a interrogé sur quel est le sens de ce cours à distance où des étudiants semblent se connecter pour montrer qu'ils sont là ou donner à voir aux profs qu'ils sont là, ne sont pas tout à fait présents. C'est un sentiment vraiment étrange.
C'est fort intéressant, je laisse aussi encore quelques minutes pour intervenir sur ça. C'est vrai que les témoignages d'étudiants seraient intéressants aussi pour nous. Alors pour le coup, ce n'est plus nous qui intervenons pour vous proposer des choses, c'est vous qui allez nous dire un petit peu comment on s'y prend, est-ce qu'on s'y prend bien ou pas bien, mais puisque vous êtes nombreux et nombreuses à être présents et présentes pour ça, ça peut être Intéressant. Et je partage un peu, le temps que vous trouviez le courage de lever la main, je partage un peu ce que tu dis, Jean-Luc. C'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, là, je parle en tant que formateur, pas que chercheur, de finir avant un cours et puis de me dire, bah, après tout, bon, allez, je suis payé jusqu'à 16h30, on va être réglo, donc je laisse ouvert. Et on retrouve un peu ce moment-là. Ça m'est arrivé parfois au bout de 5-6 minutes, j'étais parti faire autre chose, mais j'avais le truc. Quelqu'un dit, monsieur, vous êtes toujours là? Et une personne, eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois, une étudiante à l'occasion, plusieurs fois d'ailleurs, vient me poser une question sur quelque chose lié à son projet, un peu plus individuel que l'intervention collective. On retrouverait un petit peu, vous savez, ces questions à la fin du cours où quelqu'un, un étudiant vient vous voir et vous pose en fait la seule vraie, unique question qui lui tenait à cœur durant les 3 heures où vous avez été en lien et qui peut-être a été on va dire le mouvement éducatif ou le mouvement d'apprentissage le plus fort, en tout cas, de ce temps-là, quoi. Donc, c'est vrai que, alors, si du coup, je jouais le juste du prof qui témoigne de ses pratiques, je dirais que c'est vrai que ça peut être intéressant de nous faire penser à est-ce que parfois on ne ferait pas mieux de finir nos cours, même en présentiel, hein, de finir nos cours un petit peu plus tôt, plutôt qu'essayer de boucler le truc, de blablater pour essayer de rendre compte d'un programme qui n'a de sens que d'être un texte, pour essayer peut-être de réouvrir cet espace-là. En tout cas, je me dis pourquoi pas aller sur ce terrain-là. Bruno, tu veux nous parler, je vois que Bruno Bert veut témoigner sur peut-être sur des aspects que tu as développés sur la question de la frustration, parce que tu as enquêté un peu, c'est ça, au travers de témoignages sur ces éléments.
Oui, j'en parlerai cet après-midi dans mon atelier, mais j'étais très frappé que Nathalie Carminati emploie ce mot-là, parce qu'en fin de compte, c'est côté formateur comme côté formé, c'est quelque chose qui, c'est un mot qui est sans arrêt repris, hein, le mot de frustration. Et quand Nathalie a employé ce mot, ça m'a tout de suite fait le tilter, parce qu'on peut rejoindre aussi à l'intervention de Jean-Luc, là, la frustration, on pourrait presque se demander par rapport à quoi, mais il y a une frustration dans la relation qui apparaît pour beaucoup de gens, aussi bien du côté des formés que du côté des formateurs.
Merci Bruno. On a Égère qui voudrait intervenir, si tu le souhaites.
Oui, merci. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour la clarté et la consistance, on va dire, théorique et même philosophique, hein, de votre intervention, que j'ai très bien appréciée. Enfin, c'est juste une réflexion que je voulais partager avec vous. C'est comment peut-on être aussi présent à distance? Et là, ça me fait penser à un cours que j'ai assuré avec des étudiants de master il y a 2 semaines. J'avais un étudiant, justement, il a perdu à un moment donné la possibilité donc d'écouter le cours. Il était avec nous, mais avec l'image. Et par la suite, quand il a récupéré la connexion chez lui, il a demandé la parole gentiment, et il l'a eu et tout. Et il nous a dit, alors j'ai essayé de vous suivre à travers le non-verbal. Et comme vous étiez tous en train de… vous étiez à l'aise, il y avait le sourire, il y avait… vous avez l'air détendu. Donc, du coup, j'étais proche de vous malgré que j'ai perdu le son. Et là, ça m'a frappée quelque part parce que, en fin du compte, cette présence, apparemment, elle existe sous des formes multiples. Donc, la présence pourrait être même à travers le ressenti, à travers le sourire, le verbal, mais surtout le non-verbal. Et là, j'en sais pas, mais c'est comme si j'ai l'impression que nous avons tout un travail à faire par rapport à repenser l'échelle de Hall de la relation interpersonnelle. Surtout avec ce virus, avec ce Covid, on n'est plus dans cette échelle classique de Hall, n'est-ce pas? C'est-à-dire… On est assez distant sur le plan corporel pour des raisons de sécurité, vous voyez, mais on peut être assez proche tout en étant à distance. Donc, j'en sais pas, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'on est en train de redécouvrir de nouvelles formes aussi d'espace, de temps, d'interaction corporelle à distance. Voilà. Sinon, je vous remercie, c'était vraiment… C'était un régal, Jean-Luc. Merci beaucoup.
Écoutez, puisqu'on s'est dit qu'il fallait garder un petit temps d'ouvert, on va le faire. Allez, ça sera juste symbolique, mais ça sera les 2 minutes, sauf si quelqu'un veut vraiment intervenir. Je vous propose qu'on garde symboliquement pour se souvenir, pour avoir appris quelque chose aujourd'hui, qu'on garde ces 2 minutes qui nous sont théoriquement attribuées pour nous obliger à la parole, pour laisser la parole se diffuser librement et puis peut-être nous séparer en distance, en présence, je ne sais pas. On ne va pas vraiment changer d'endroit, mais on va se séparer et nous retrouver du coup à 14h. Donc, je ne vous copie pas les liens, là, il y en a 14. Hein. Vous avez reçu les liens par Laurine Derny. Donc, dans les ateliers, une variété d'ateliers qui sont proposés cet après-midi par de nombreux collègues. Voilà, merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Marie-France pour vos interventions, merci aux participants d'avoir contribué aussi à alimenter les choses. Et si je veux finir avant 20, je dois me taire de suite. Donc, je me tais et je vous souhaite bon appétit et à tout à l'heure pour certains d'entre vous. Au revoir.